C'était dit, c'était écrit, elle s'arrêterait à la fin du mandat de Donald Trump le jour de la passation de pouvoir. C'est donc aujourd'hui que la revue America sort son ultime numéro, le 16e, trimestriel, 4 numéros par an pendant 4 ans, 4 x 4, 16, un par trimestre pour témoigner à travers le regard de journalistes et d'écrivains de l'évolution de la société américaine. Bonjour Julien Bisson.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct dans le studio d'Europe 1. Vous êtes rédac chef d'America depuis le premier numéro. Quelques notes de musique pour commencer. Hello Goodbye des Beatles. Hello Goodbye, c'est le titre qui figure sur la couve du dernier numéro d'America. Qu'est-ce que vous avez voulu dire avec ce titre ?
Eh bien, c'est hello, c'est bonjour à une nouvelle Amérique, l'Amérique de Joe Biden, qui prend ses fonctions cet après-midi. Et puis, goodbye à Donald Trump, qui va quitter Washington pour la Floride. Et goodbye aussi à tous les lecteurs qui ont suivi l'aventure America pendant 4 ans.
Alors, en une, il y a un beau dessin de Mathieu Persan, comme pour chaque numéro, inspiré par le diapo américain. On voit une large avenue, au sol, il y a des rayures rouges et blanches, le ciel est bleu, les étoiles, elles sont posées une par une en guise d'ampoule, au sommet de lampadaires qui bordent l'avenue. Elles sont toutes cassées sauf une, elle s'allume parce qu'elle vient d'être changée par un ouvrier qu'on voit de dos sur une échelle. Ça veut dire quoi ce dessin ?
Eh ben c'est l'idée que peut-être que l'Amérique est en ruine mais qu'elle va peut-être être réparée dans les prochaines années. C'est un dessin qu'on avait imaginé donc en décembre, on a bouclé ce numéro bien avant les événements du Capitole, mais à la base il devait déjà y avoir un gros Capitole au fond.
Ouais.
Là il est beaucoup plus petit, mais quand on a vu les événements du Capitole du 6 janvier, on s'est dit que vraiment les artistes avaient un don de pression. C'est qu'il avait imaginé, Mathieu Persan, cette couverture avec ce Washington dévasté et cette idée qu'il fallait, avec cette casquette Make America Again, cette casquette rouge emblématique des supporters de Trump au sol, et qu'il y avait quelque chose qu'il allait falloir réparer. Et quand on s'est sidéré devant les événements du 6 janvier, en se disant qu'il y avait quelque chose de prophétique dans cette couverture.
Alors la raison d'être d'America, c'était de raconter l'histoire du mandat de Trump, la transformation des États-Unis pendant les 4 dernières années. On va y revenir, on va s'intéresser à ce qui s'est passé, mais avant ça, une question. Où en est l'Amérique aujourd'hui ? C'est le thème du dossier du dernier numéro. Tiens, je vous la pose. Où en est l'Amérique aujourd'hui ? Vous avez 50 secondes.
L'Amérique est dans un état de sidération et de division comme elle n'en a jamais eu depuis peut-être la guerre de sécession. C'est pour ça qu'on a interrogé Colm McCann, notamment dans le dernier grand entretien, parce que Colm McCann vient d'un pays, l'Irlande, qui a connu la guerre civile et a connu un pays qui était divisé en deux parties très hostiles. Et on lui pose la question d'ailleurs de lui demander est-ce qu'une possibilité d'une guerre civile est possible aux États-Unis. La question aujourd'hui, c'est va être la question de la réconciliation. Est-ce qu'une réconciliation est possible dans un pays qui ne se reconnaît plus, qui ne se parle plus et qui ne partage même plus les mêmes univers culturels ?
Et vous bouclez la boucle puisque Colm McCann était là dans le premier numéro d'America il y a 4 ans. Alors pour se rendre compte de la transformation politique des États-Unis, j'aimerais qu'on écoute deux extraits du discours d'investiture de Donald Trump. C'était le 20 janvier 2017. Deux extraits qui résonnent de manière très particulière aujourd'hui. Voici le premier.
Tous les 4 ans, nous nous rassemblons sur ces marches pour effectuer une passation méthodique et pacifique des pouvoirs. Et nous sommes reconnaissants au président Obama et à la première dame, Michelle Obama, de leur bienveillance tout au long de cette transition. Ils ont été magnifiques. Merci.
Je tente un néologisme, c'est anti-prémonitoire. Oui. Que s'est-il passé pour que Donald Trump soit absent aujourd'hui, alors qu'il parlait de passation méthodique et pacifique du pouvoir il y a 4 ans ?
Oui, méthodique et pacifique. Pacifique, la passation ne l'a évidemment pas été, on l'a vu avec les événements du Capitole.
Ouais.
Méthodique non plus, puisque Donald Trump ne va même pas rencontrer Joe Biden. Il va quitter la Maison-Blanche avant que Joe Biden n'arrive. D'ailleurs, Joe Biden est à Washington, il dort dans des résidences qui ne sont pas très loin, mais ils ne vont même pas se rencontrer. Ça montre bien le dédain que Donald Trump peut avoir, mais aussi c'est presque une volonté politique, c'est de montrer que ce n'est pas lui qui confie les rênes du pouvoir à Joe Biden, mais qu'il est sorti de la Maison Blanche de façon illégale et que donc il est légitime à pouvoir continuer ensuite à occuper la scène politique.
Ça c'est la thèse de Trump. Deuxième extrait du discours d'investiture de Donald Trump, donc il y a 4 ans, c'était celui qui était le plus marquant, celui qui avait été le plus commenté à l'époque.
Nous qui sommes réunis ici aujourd'hui, nous prenons un nouveau décret qui sera entendu dans toutes les villes, toutes les capitales étrangères. et tous les centres de pouvoir. À partir d'aujourd'hui, une nouvelle vision gouvernera notre nation. À partir d'aujourd'hui, ce sera strictement l'Amérique d'abord. L'Amérique d'abord. Ensemble, nous allons déterminer l'avenir de notre pays et celui du monde pour de nombreuses années à venir. Nous aurons des défis à relever. Nous aurons des difficultés à surmonter. Mais nous ferons ce qu'il faut pour réussir.
Julien Bisson, qu'est-ce qu'il reste de ce slogan « America first » ?
Il reste l'idée que les discours ne sont pas performatifs, que évidemment c'est un discours qui a été maintes fois énoncé pendant ces quatre années, mais quel est le bilan de Trump au bout de ces quatre années?
Concrètement, il ne s'est rien passé. Il n'y a pas des lois qui ont instauré America First.
Si, il y a eu des lois, notamment sur le plan du commerce, par exemple, où il y a eu des programmes commerciaux qui ont essayé de mettre l'Amérique au premier plan, mais le résultat en lui-même, c'est que même ces lois commerciales ont provoqué un appauvrissement des producteurs, des agriculteurs américains. Et puis, dans le point de vue géopolitique, l'Amérique ne ressort pas grandie de ces quatre années. L'Amérique ressort plutôt affaiblie évidemment par la crise du Covid, mais de façon plus générale par un affaiblissement de son envergure militaire, diplomatique, un effacement de son rôle dans le monde. Donc America First, non, ce n'est pas, en effet, c'est pas performatif, et l'Amérique ne ressort pas en premier plan des puissances mondiales après 4 ans de Trump.
Que va-t-il se passer maintenant pour l'Amérique et pour le journal America qui s'arrête? Que va devenir la rédaction? On vous donne la réponse dans quelques instants avec le rédac-chef de la revue America, Julien Bisson. En compagnie de Julien Bisson, rédacteur en chef d'America, America qui célèbre son ultime numéro, mais c'est un choix, Xavier, qui serait là tant que Trump serait à la Maison Blanche. L'un n'y est plus, l'autre va se retirer des kiosques après la vente de ce dernier numéro, imprimé, vous me l'avez dit, pendant la pause le 23 décembre, et qui anticipe les émeutes qui sont passées au Capitole avec ces étoiles détruites. L'évolution des États-Unis, vous avez choisi de la suivre dans chacun des 50 États américains. On va sur la carte qui ouvre chaque numéro. Vous l'avez fait à travers le regard de journalistes, mais surtout d'écrivains. C'est la différence d'America. C'est comme ça que vous démarquez. Toni Morrison pour le premier numéro, Stephen King, James Ellroy, Paul Auster, rien que ça. Entre autres, qu'est-ce qui vous a marqué, avec le recul, dans leur récit, c'est au pluriel, dans leur regard, c'est au pluriel?
C'est leur volonté de proposer justement un contre-récit à l'histoire de l'Amérique. C'est l'idée qu'à chaque fois, dans chaque numéro, on est parti des grands mythes américains. L'argent, les armes, le sexe, les grands espaces, et ainsi de suite. Et puis, grâce aux écrivains américains, on a réussi à écorcher ce vernis, à essayer d'aller gratter pour aller voir ce qui véritablement sommeille dans les tréfonds de l'Amérique. Et poser des questions à Toni Morrison, à Paul Auster, à James Ellroy, à Stephen King, à tous ces grands écrivains qui, depuis très longtemps, dans leur œuvre, se penchent sur ce qu'est l'Amérique, c'est justement aller voir la contre-histoire, aller voir au-delà des discours officiels pour aller comprendre les lignes de fracture qui peuvent sillonner la civilisation, la culture américaine, aller comprendre le poids de l'esclavage, le poids du racisme, le poids de la violence, et comment tout cela a pu constituer une société américaine qui tient par des petites ficelles, mais qui véritablement n'arrive pas c'est des ficelles qui peuvent tout le temps être en train de craquer. Voilà, c'est grâce aux écrivains, c'est mettre en récit la rumeur du monde. C'est arriver à entendre tous ces petites choses et réussir à créer un récit qui permette de mieux comprendre comment cette culture américaine se structure.
Juste un mot, et de grands écrivains, vous l'avez dit, il y a aussi des dessins dans America de la bande dessinée. Dans le dernier numéro, c'est un journal dessiné du confinement signé Emile Ferry, c'est l'une des plus grandes dessinatrices américaines. C'est magnifique, mais j'avais jamais vu ça. Le texte est en anglais, mais dans les marges, c'est vous qui traduisez les bulles. C'était par manque de temps, par esthétisme ou par manque d'argent?
C'était surtout par manque de temps, parce que on a reçu les planches d'Emile Ferris très tard.
Ouais.
Et je vous avoue que je voulais aussi, c'était important dans America, on a toujours des textes en VO. On a toujours des textes en anglais parce qu'on voulait aussi faire en sorte que les lecteurs puissent entendre la voix des auteurs. Et là, on a reçu ces textes calligraphiés par Emile Ferris et on a fait le choix de ne pas tout traduire en mettant des lettres informatiques et en gardant ces textes calligraphiés par Emile Ferris. ça permettait de garder aussi cette profondeur, cette énergie assez planche.
Je souris parce qu'il y a un texte de Rachel Kouchner, Shame Too, c'est la suite. Et alors il y a le texte en français, page de gauche, et page de gauche, et le texte original en anglais, page de droite. J'aimerais pas être le traducteur, où tout le monde voit si j'ai pas fait une erreur, je détesterais. Pour parler de ces quatre dernières années et de ce que sont devenus les États-Unis, on vous a demandé de choisir une chanson marquante des années de Trump, et voici celle que vous avez retenue. This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping now. This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping now. This is America. Don't catch you slipping now. Look how I'm living now. Police be tripping now. Yeah, this is America. Guns in my area. I got the strap. I gotta carry 'em. Yeah, yeah. Qui est cette voix dans ce rap et que raconte cette voix?
Alors cette voix, c'est le rappeur Childish Gambino, c'est le nom du rappeur de l'acteur Donald Glover. Et c'est un titre qu'il a sorti en mai 2018, This is America, et qui a beaucoup frappé les esprits à l'époque, non seulement par les paroles, mais par le clip également, qui était un clip très très violent, dans lequel on le voit en train de danser avec des images autour de lui très violentes, et qui parle de la condition des Noirs aux États-Unis et des la condition prise dans les engrenages de la violence, de l'argent, des armes. Et c'est je trouve un titre très fort parce que c'était justement, il est sorti au moment où Donald Trump avait un discours sur l'Amérique blanche. Et la chanson de Childish Gambino rappelait qu'il y a une autre Amérique. Il y a une autre Amérique qui essaye de survivre dans un pays qui lui fait pas forcément une très belle place. Et c'est une chanson qui était importante parce que, d'une certaine façon, elle préfigure tout ce qui s'est passé l'année dernière avec les mouvements Black Lives Matter. Et véritablement, ça a été un petit caillou dans ce grand parcours qui mène aux revendications des Noirs aujourd'hui. Et je crois vraiment que ça a été, elle est sortie à peu près au mi-temps de la présidence Trump. Et ouais. Ça a été une chanson importante pour cela.
Dans America, Julien Bisson, vous avez chroniqué les séries américaines, pas forcément celles produites au cours des dernières années. Par exemple, dans le dernier numéro, vous parlez de Seinfeld, qui est une série des années 90, donc c'est pas du tout trumpienne ou trumpiste. Pourquoi revenir 25 ou 30 ans en arrière, alors que la promesse de la revue, c'était de parler du présent?
Parce que les séries, comme toutes les grandes œuvres culturelles, nous parlent toujours du présent. C'est parce que toutes ces grandes séries, moi j'ai chroniqué en effet Urgence, Twin Peaks et quelques autres comme cela, elles nous parlent toujours de ce qu'est la société américaine. Et pas parler de Seinfeld, c'est revenir sur un portrait de la société américaine, un portrait des bassesses, un portrait du cynisme, un portrait de ce que c'est que la vie citadine également. Et puis avec des personnages dont un personnage qui s'appelle George Costanza, qui ressemble beaucoup à Donald Trump à certains égards. Et d'ailleurs, quand Donald Trump a dit qu'il ne quitterait pas la Maison Blanche, beaucoup de médias américains ont dit mais il nous fait une Costanza, parce qu'il y a un épisode de Seinfeld où Costanza est viré de son bureau et le lundi matin revient comme si de rien n'était, en essayant de faire en sorte que personne ne s'en rende compte. Voilà, donc c'était aussi ce petit clin d'œil qui m'amusait.
Je ne souris pas de ce que vous dites, je souris de mes rémémorations des visionnages de Seinfeld. Dans le premier numéro d'America, le pacte était clair. America s'éteindrait quand Donald Trump terminerait son mandat. Son mandat ou ses mandats? Vous auriez fait quoi si Trump avait été réélu?
C'est une excellente question et je pense qu'on est content de ne pas avoir eu à se la poser.
Mais vous l'avez posé quand même, quand il était en tête dans les sondages où il y a encore un an.
On se l'est posé, on s'est dit est-ce qu'on a envie de repartir pour 4 ans de plus? Je pense qu'on aurait eu un mandat pour le faire, en tout cas, s'il avait été réélu. Mais on espérait, pour beaucoup de raisons, on espérait qu'il soit battu en novembre dernier, et donc ça a été aussi une satisfaction de ce point de vue. Ça permettait pour nous de conclure cette aventure au 16e numéro, comme on l'avait souhaité. Comme vous l'avez rappelé, je chroniquais les séries dans ce numéro, dans cette aventure, et j'aime les séries qui ne font pas la saison de trop. J'aime les séries qui ont un début, un milieu, une fin, et qui ont fini de raconter une histoire, et on a eu le sentiment qu'avec ce 16e numéro, on finissait de raconter cette histoire, et qu'on ne voulait pas continuer pour continuer, simplement pour parce qu'il y a du succès, et finalement se décevoir et se répéter.
16 numéros en 4 ans, mais 500 000 exemplaires vendus, donc on fait la division, 33 000 exemplaires par numéro, aucun numéro n'est descendu sous les 30 000 exemplaires. C'est un succès commercial. Est-ce que c'est aussi un succès financier?
Oui, c'est forcément un succès financier. Quoique, vous savez, America, pour réussir à produire un magazine comme America, ça coûte cher.
Bien sûr.
On a envoyé beaucoup d'écrivains français aux États-Unis, on paye beaucoup d'illustrateurs, vous avez parlé d'Emile Ferris, on a des gens comme Chris Ware dans ce nouveau numéro, on commande des textes à des écrivains américains. Donc et puis on a essayé aussi, dès le début, d'avoir une qualité de papier, une qualité d'ancrage qui soit aussi celle de presque d'un très beau livre, de façon à ce que les lecteurs gardent ces Américains dans leur bibliothèque et ne le mettent pas dans leur revue, voire dans leur poubelle à papier.
Que vont devenir celles et ceux qui travaillent pour America?
Eh bien, ils vont continuer d'autres aventures.
Vous êtes au sein d'un groupe.
Comment?
Vous êtes au sein d'un groupe.
Oui, on est au sein d'un groupe. Écoutez, on a plein d'autres choses à faire. François Bunel continue évidemment à la Grande Librairie. Moi, je suis rédacteur en chef du 1. Mmh. Donc, on a aussi d'autres choses. Et puis, on va aussi continuer à réfléchir à l'avenir. On n'a pas voulu continuer America pour éviter de se répéter, mais on a aussi envie de trouver de nouvelles idées, de nouvelles énergies pour lancer d'autres projets à l'avenir.
Donc, il y a peut-être un projet qui est dans le four et qui va sortir bientôt.
Il n'y a pas de projet dans un tiroir secret.
Ouais.
mais évidemment qu'on a envie de pouvoir créer, on a envie de pouvoir inventer des nouvelles choses.
Voilà, et ce groupe dirigé et créé par Eric Fotorino. Merci beaucoup Julien Bisson.
Merci beaucoup Philippe.
Oh là là. L'hymne pour votre sortie en majesté, rédac chef d'America, dont l'ultime numéro arrive en kiosque aujourd'hui. On peut également suivre votre travail chaque semaine dans le 1 dont vous êtes le rédacteur en chef. Le sujet cette semaine du 1.
Le sujet cette semaine, c'est les ados qu'on prostitue.
Aucun rapport avec ce qui précédait. Dans un instant,